Alemania.
France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Europe ce soir.
Vous êtes en charge du rapport sur la proposition de règlement du Parlement et du Conseil, abrogeant le règlement 2115/2005 du Conseil et le règlement 1385/2007. C'est un dossier essentiellement technique qui ne devrait présenter aucune complication.
C'est tellement criant de vérité, un extrait de la série Parlement qui a eu un vrai succès, ça continue. Il va y avoir une quatrième saison qui est en tournage et qui fait la paire au fond avec la bulle de Bruxelles en bulle de BD que vous nous racontez, Coco Pello, bonsoir.
Wow.
Vous êtes dessinateur de presse, vous avez donc écrit La Tour de Babel, voyage au cœur du bazar européen chez Dargo et Seuil. Et bonsoir Maxime Caligaro.
Bonsoir.
Vous, c'est vous qui avez commis Parlement qu'on a entendu à l'instant. Vous êtes aussi conseiller politique au Parlement. Vous avez aussi écrit Les Compromis, un polar dans les coulisses du Parlement. Et au fond, on a l'impression que vous avez le même but tous les deux, Coco Pello, rendre sexy, je sais pas si on peut dire ça comme ça, les institutions européennes. Peut-être que vous vous connaissez d'ailleurs tous les deux parce que j'ai lu avec intérêt que lorsque vous avez commencé votre travail, le premier endroit où Mathieu Sapin, qui édite ses collections, vous envoyait, c'est à la série Parlement, en fait, pour voir comment ça marche.
Oui, j'ai d'abord rencontré Noé Debré, ouais, qui est co-scénariste sur cette série et qui m'a donné quelques petits tips pour essayer de mieux appréhender ce qui se passait à Bruxelles et à Strasbourg. Mais je vous avoue que j'y allais vraiment comme un néophyte et que j'ai découvert tout un monde là-bas.
Alors, vous y allez comme un néophyte et vous y allez même carrément néophyte parce qu'au fond, vous nous le dites, vous ne saviez pas diviser l'Europe en commission, conseil et parlement avant d'y aller, ou à peine en fait.
Alors non, pas du tout. Je ne savais pas qu'il y avait trois institutions différentes. Et pour moi, un commissaire européen, c'était peut-être une sorte de flic avec un badge qui contrôle les eurodéputés. Finalement, pas du tout.
Il y a un peu de ça. Hein.
Il y a un peu de ça.
Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que même les gens qui font l'Europe, en fait, je pense à un moment, c'est dans la bouche de Pascal Canfin qui dit « C'est fou quand même ce préjugé, parler d'Europe, c'est chiant. » Et c'est effectivement ça votre point de départ, et c'est ce que dit Canfin. Et c'est fou parce que ce préjugé, il existe depuis tout le temps. Depuis que l'Europe est là quasiment, on en parle tout le temps, il y a des manifs partout, mais ce préjugé est là, et même ceux qui la font le savent que ce préjugé est là. On tourne un peu en rond, non, vous croyez pas, Coco Pello, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait.
C'est clairement le serpent qui se mord la queue. On va avoir besoin de cette Europe face aux différents défis, le défi migratoire, la crise énergétique, la crise climatique, etc. Et pourtant, cette Europe, on n'arrive pas à la saisir. Et ça, c'était un des premiers enjeux que moi, j'avais dans cette bande dessinée. C'était pas de faire un portrait de cette Europe en disant « l'Europe, ça va être génial ». C'était de dire « ok, je vais me rendre sur place ». Et je vais faire une sorte de compte rendu en dessin de ce qui se passe véritablement dans ces trois grandes institutions.
Et Maxime Caligaro, au fond, ce que vous faites tous les deux est assez similaire puisqu'il s'agit de décorseter, montrer les hommes, montrer les femmes. Mais encore une fois, ça reste que dingue qu'à chaque approche électorale, on soit obligé de refaire cet exercice et de réexpliquer, Maxime.
Oui, nous, ce qu'on essaie de faire en fait avec la série, c'est de pousser les portes des institutions. Parce que si je vous dis Commission européenne, Parlement européen, vous ne vous imaginez pas grand-chose, si ce n'est des bâtiments en vitres bien lavées avec des drapeaux européens qui flottent au vent. Mais ce qu'on ne fait jamais, c'est vous amener derrière les vitres bien lavées des institutions pour vous raconter la vie des gens comme vous et moi, en fait. Enfin, surtout comme moi, parce que je suis eurocrate sur mon temps travaillé. Mais effectivement, ce qu'on essaie de faire avec la série, c'est ce que fait aussi Coco Pello avec sa BD, c'est une cartographie des institutions, mais surtout raconter d'incarner ce que sont les travailleurs de l'Europe. Des gens qui ne sont pas forcément en représentation, quand vous parlez à un député européen ou un commissaire européen, vous avez souvent des gens qui sont des politiques et qui sont donc en représentation. Or, nous, ce qu'on essaie de raconter, c'est vraiment les coulisses, pour vous montrer que les eurocrates, comme la plupart des gens, ont leurs espoirs, leurs peurs, leurs faiblesses, leurs petits projets. Il y en a des bons, il y en a des nuls, il y en a des idiots, il y en a des brillants. Et que finalement, la machine européenne est faite de chair et d'os.
Et on va poser la question à Coco Pello parce qu'il y a des épisodes dans la BD que j'ai bien repérés là-dessus. Mais Maxime Caligaro, on sent bien que c'est ce que vous essayez de faire. En même temps, il y a des portes qui sont difficiles à pousser. L'Europe dit partout nous sommes transparents, parfois cette transparence on a du mal à la voir.
Ouais, alors j'ai l'impression que c'est comme tous les lieux de pouvoir.
Ouais.
Là où se décident les choses, parfois, on ferme les portes pour se mettre entre nous et décider. Alors quand je dis entre nous, c'est les États membres, entre eux, parfois, qui ont besoin de faire des compromis ensemble et qui ne pourraient pas mettre sur la place publique les choses qu'ils ont lâchées dans une négociation. C'est-à-dire que si vous prenez un Allemand et un Grec pendant la crise de la zone euro, évidemment que le Grec va devoir lâcher un petit peu. Évidemment que l'Allemand va devoir lâcher aussi un petit peu. Mais parfois, il faut un peu d'opacité. Alors, je l'assume totalement. Parfois, il faut vraiment fermer les portes pour se mettre d'accord et pour trouver un compromis. Et ensuite, réouvrir les portes et expliquer le compromis. Donc, Bruxelles est un lieu de pouvoir. J'ai l'impression, moi, qu'il est plus transparent peut-être que Paris, parce qu'il y a beaucoup de règles qui ont été mises en place à Bruxelles, notamment les registres de transparence pour les lobbies, pratiquement tout ce que fait la Commission européenne est consultable sur Internet. Vous pouvez vous-même y aller, donner votre avis à chaque projet de loi, ce qui n'est pas forcément, à mon avis, le cas au niveau français. Et parfois, je pense que l'Europe pâtit de cette transparence, c'est-à-dire que quand on voit le nombre de lobbyistes à Bruxelles, on se dit, là, il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être autant dans d'autres capitales, mais elles ne le disent pas forcément.
Alors,
de façon
aussi
ouverte.
C'est vrai qu'au moins, on les voit, on vous voit vous promener avec Manon Aubry, Coco Pelo, c'est pas qu'elle vous les présente, c'est qu'elle vous montre lobby. Effectivement, vous le disiez, c'est pas une hagiographie, votre bande dessinée, c'est pas de dire effectivement l'Europe est géniale. D'ailleurs, vous racontez notamment le marchandage avec Orban pour son lever de veto. Vous avez quelqu'un qui vous le raconte réellement. On était à 75, on a laissé à 35, c'est mieux comme ça. Et vous racontez aussi le nombre de fois où vous vous êtes fait jeter quand même et où vous n'avez pas pu rentrer à l'intérieur des portes.
La magie de la bande dessinée, c'est de pouvoir dire justement quand j'ai eu des portes ouvertes, je disais voilà, j'ai réussi à avoir ça, et j'avais un accès assez large, plus large que celui de la majorité des journalistes. Par contre, quand j'avais des portes closes, lors des négociations dont parle Maxime, où là, il y a une délégation grecque qui va se mettre d'accord avec les Français pour pilonner la position italienne ou la position allemande, dans ce cas-là, on me disait, non, tiens-toi à l'écart, là, tu ne peux pas avoir le contenu de ces discussions, parce que c'est de la diplomatie.
Vous avez l'impression que vous en avez montré plus qu'on en aurait montré un journaliste classique, au fond, parce que vous êtes le petit gars, parfois avec votre chien en plus, qui s'appelle Zola, vous avez votre petit carnet de croquis tranquillement. Donc, vous passez plus inaperçu, en fait. Vous avez eu ce sentiment-là, parfois, ou pas?
Bien sûr, c'est la magie du dessin.
Ouais.
Quand vous vous présentez face à un homme politique, avec un carnet et un crayon, il se dit, génial, je vais être caricaturé, je vais être dessiné. Le dessin crée un lien que la caméra ou le micro ne peut pas créer. Et donc, face à ça, moi, j'ai des gens qui se libèrent beaucoup plus et qui me disent, allez, viens, tu vas nous accompagner. Et ils sont ravis d'être en bande dessinée après, même si moi, à côté du dessin, il y a souvent le texte, et le texte peut être... une sorte de trahison parfois.
Mais absolument, donc parce que vous y allez franchement, et à chaque fois, je me suis posé la question en lisant Coco Pelo, Maxime Caligaro, je me suis demandé, des reportages dans les coulisses d'une élection, il y en a toujours, il y en a tout le temps, après une présidentielle, etc. Des reportages dans les coulisses d'une élection européenne, je crois que j'en ai jamais vu, en fait. Est-ce que c'est, pardon, parce que c'est pas du tout intéressant, ou est-ce que c'est parce que, encore une fois, ces portes-là, faut les forcer?
Alors, les coulisses d'une élection, je ne sais pas. En revanche, moi, j'ai vu beaucoup de documentaires très, très intéressants sur des négociations. Il y en avait une qui était passée sur France 2, où il y avait Stéphane Le Foll, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture, qui s'appelait La Négociation, où on voyait se négocier la PAC, donc la politique agricole commune, qui intéresse tout le monde. C'est prenant, c'est-à-dire que vous êtes avec un fonctionnaire français, est-ce qu'il va avoir 1%, 2%, enfin, vous vivrez le truc avec lui. Il y a des documentaires aussi sur les sommets européens de Yann Antonino Guez, qui sont absolument fascinants. Donc, j'ai l'impression que ce qui intéresse Bruxelles pour l'instant, c'est plus l'aspect de négociation, parce que c'est là qu'est le pouvoir. Or, les élections européennes, en vrai, ce sont des élections françaises au Parlement européen. Et donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cet aspect transnational qui amènerait la caméra à s'intéresser à l'élection européenne.
J'ai envie de dire hélas, mais effectivement, c'est une réalité. Coco Pelo, vous voyagez beaucoup pendant votre périple. Vous allez en Suède d'abord. Ça m'a fait rire d'ailleurs, parce que là aussi, l'ambassadeur, quand vous lui dites « tu fais une BD sur l'Europe », il vous dit « oh là là, bon courage hein. ». Ça veut dire aussi ce qu'on en pense de l'intérieur. Vous avez été en Allemagne, vous avez été jusqu'en Ukraine aussi. C'est même la raison pour laquelle vous voulez commencer cette BD. Vous avez été aussi à San Francisco avec Thierry Breton. Et vraiment, c'est intéressant de voir à quel point ouvrir des portes de l'Europe dans un endroit qui n'est pas en Europe a une importance cruciale. Et c'est ça que vous racontez dans cet épisode avec Thierry Breton, où il raconte Elon Musk, où il rencontre, enfin en visio, je ne sais pas s'il va en faire quelque chose, Elon Musk, très honnêtement, mais au moins l'Europe était là à ce moment-là. Et c'est ça que vous montrez.
Oui, c'était lors du bras de fer entre Twitter et les grands groupes médiatiques et le commissaire français Thierry Breton, qui est commissaire à l'industrie et puis justement au numérique, et qui devait affirmer la parole de l'Europe dans le monde et qui, pour une fois, tapait un peu du poing sur la table en disant « Non, non, nous, on est les Européens, on va faire des règles et c'est vrai que ce sera comme ça, sinon on bannit Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. en dehors du réseau européen. »
Et c'est intéressant ça, Maxime Caligaro, parce que, et là vous avez à la fois votre casquette de spécialiste qui travaillait dans ces coulisses-là, mais aussi qui les racontait de loin, ça dit jusqu'à quel point, c'est ce que dit l'un de vos personnages d'ailleurs, Coco Pelo, on a besoin de l'Europe pour pouvoir boxer en dehors de notre catégorie. Et face à un gars comme Musk, c'est exactement ça qu'il faut faire.
Tant qu'on est aux États-Unis, j'y reste. Pour revenir à votre première question, vous savez, les États-Unis, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que l'Union européenne. C'est un système fédéral, on ne comprend pas grand-chose. Il y a des swing states, il y a des primaires, ça, c'est des caucus, on ne comprend pas. Mais le récit narratif est très clair. Super Tuesday, aujourd'hui, on va savoir si Trump est candidat ou pas. Vous imaginez si en Europe, on avait un méga lundi pour savoir si on aura Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission. Donc j'ai l'impression en fait que les États-Unis...
Excellente idée, le méga lundi, je ne note.
Ouais, non, mais voilà, j'essaie de lancer des pistes, mais j'ai l'impression que le récit politique et le récit enfin tout ce qui est la narration politique aux États-Unis est très clair. Et nous, on n'a pas tellement eu ça parce que la fiction encore n'a pas familiarisé les gens au lieu de pouvoir. Un exemple tout simple, le bureau ovale du président américain, on l'a tous vu en voyant des séries. La salle de réunion du collège des commissaires où se décident des choses, la caméra n'est jamais rentrée là.
On ne sait même pas à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on connaît un peu les extérieurs, on connaît les allées, on connaît les
choses.
On connaît ce qu'a dessiné Coco Pelo, ces grandes choses, ces grandes vitres transparentes. Mais finalement, on ne connaît pas grand-chose. Mais je trouve ça intéressant, Maxime Caligaro, parce que vous, quand vous décidez de le montrer, vous le montrez sur le ton de l'humour.
Exactement. Et là, la quatrième saison, on est en train de la tourner aujourd'hui dans la salle du Conseil européen. Donc, c'est là que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour prendre des grandes décisions. Et nous, évidemment, le pari, c'est pas de rendre l'Europe sexy. C'est de la rendre marrante, rigolote. On nous a beaucoup d'ailleurs reproché d'avoir fait une comédie au début, parce que les gens disaient « Ah mais non, sur l'Europe, il aurait fallu faire un House of Cards, il aurait fallu faire un à la Maison Blanche. » Mais on a décidé de pas mentir sur le lieu, qui est au fait un lieu assez marrant, assez simple au fait, donc pas sexy, très intéressant, captivant par certains endroits, mais qui recèle beaucoup de comédie, parce qu'il est très complexe. Vous avez passé au début un extrait avec un administrateur qui explique ce que c'est qu'une loi européenne et ce qu'il va falloir faire pour notre pauvre ingénue. La complexité est source de comédie et donc ça nous a désigné tout naturellement la forme que devait prendre la série.
Vivement la quatrième saison. En attendant la quatrième saison, il y a la Tour de Babel, voyage au cœur du grand bazar européen, signé Coco Pelo. Ça sort maintenant. Allez-y, juste avant de voter, il vous reste 2 mois, on a largement le temps. Merci beaucoup, merci vraiment.